Alors pour commencer cette biographie, je vais justement commencer par présenter un terrain, mais un terrain qui n'est pas en Afrique, mais qui concerne plutôt les archives et les archives comme terrain. Et c'est quelque chose dont je parle un peu dans mon introduction et qui est assez important dans mon approche. Et donc je vous emmène à Besançon, dans l'est de la France, sur une grande friche industrielle que les gens de Besançon appellent la Rodia, qui est en fait les restes d'une immense usine qui était une usine textile du groupe Braun-Poulenc, donc qui était pendant les Trente Glorieuses vraiment un des monuments de l'industrie française, à la fois groupe pharmaceutique et groupe chimique qui faisait de la pharmacie et aussi des fibres textiles. Et donc c'est dans cette friche, il ne reste rien de fonctionnel. C'est une friche qui est, à ma connaissance, toujours dans cet état parce qu'elle est extrêmement, extrêmement grande et donc extrêmement lourde à réhabiliter potentiellement, extrêmement difficile aussi à détoxifier. Donc c'est une ruine, pour citer un journal de Besançon, qui est une ruine encombrante dont on ne sait pas vraiment quoi faire, qui est trop grosse en quelque sorte pour pouvoir être transformée. Et donc dans cette friche de la Rodia, il ne reste en fait qu'un seul bâtiment fonctionnel qui appartient à une filiale du groupe qui a hérité de Braun-Poulenc et qui est le groupe pharmaceutique Sanofi, hein, qui est toujours aujourd'hui une des plus grosses entreprises du CAC 40 et une des principales firmes pharmaceutiques mondiales. Et donc Sanofi n'a gardé qu'une filiale dans ce site, et cette filiale, c'est la Société d'archivage moderne, qui est une petite société d'archivage, qui est une société privée d'archives, et qui héberge notamment les archives du groupe Braun-Poulenc, qui sont des archives très importantes, évidemment, pour l'histoire de l'industrie pharmaceutique tout court. Et donc c'est au sein de ces archives, qui sont une sorte de dernier vestige de l'activité industrielle de cette friche de cette usine qui a progressivement fermé à partir des années 80 dans le contexte d'une transformation majeure de l'industrie européenne, hein, et d'une désindustrialisation. Donc cette société d'archives était une sorte de, je le dis dans le texte que je vous ai fait lire, une sorte de continuation et presque de parodie du travail industriel, puisque le jour où j'étais venu, la firme était en plus en grève. Si vous êtes un peu au courant de l'histoire des mouvements sociaux, la Rodia, c'est une des plus grandes grèves de l'avant 1968, hein, les grèves de la Rodia, et Besançon est une des villes qui a été les plus importantes dans la naissance du mouvement ouvrier de 68. Donc il y avait cet aspect presque parodique. Et les archivistes de cette firme étaient des anciens de l'usine textile qui étaient reconvertis. Et donc l'archiviste qui m'a reçu était un ancien fileur de Tergal. Voilà. Donc tout ça pour dire, c'est dans ces archives que j'ai vu le seul dossier concernant le médicament que j'étudie, la pentamidine, et dont je retrace la biographie. Je voulais commencer par ces images parce qu'en fait, sur un plan un peu métaphorique, elles évoquent la trajectoire de mon médicament, qui est lui aussi une sorte de débris d'une page d'histoire qui coïncide avec cette grande histoire de la France industrielle des Trente Glorieuses, qui était aussi une France impériale, une France dont la grandeur dépendait en grande partie de son empire colonial et en particulier de son empire colonial africain. Et donc mon médicament, il partage un peu la même trajectoire, celle d'un médicament qui est aujourd'hui à la fois oublié et puis un peu trop encombrant pour être complètement oublié, dont j'ai voulu retracer l'histoire aussi comme une sorte de débris et de débris d'un empire colonial français. Donc je vais commencer par vous décrire la brève histoire expérimentale de ce médicament et le contexte dans lequel il a été découvert. Donc c'est un médicament dont la molécule s'appelle la pentamidine et qui a été commercialisée par Braun-Poulenc en France sous le nom de Lomidine et puis par des filiales britanniques de Braun-Poulenc sous le nom de pentamidine. Donc je vais un peu passer d'un terme à l'autre. Alors l'histoire de ce médicament, elle commence avant la Seconde Guerre mondiale, en Grande-Bretagne, dans un contexte où l'État britannique fait des investissements importants dans la recherche médicale, notamment à travers une institution qui est le MRC, le Medical Research Council, qui est un peu l'équivalent de l'INSERM en France, et qui est une structure qui est financée par l'assurance maladie britannique pour faire de la recherche médicale. Et dans ce contexte, et en particulier dans le contexte d'une rivalité avec l'Allemagne, qui est à l'époque un État dépourvu de colonies, mais très en pointe sur le plan de l'industrie chimique et en particulier de l'invention de médicaments pour les maladies tropicales. Donc il y a une rivalité forte avec l'Allemagne qui revendique même le droit de retrouver ses colonies africaines au prétexte qu'elle serait à même de mieux les soigner sur le plan médical. Donc il y a des joutes comme ça diplomatiques qui prennent pour enjeu les traitements des maladies tropicales. Et donc, bref, dans ce contexte, des scientifiques d'une firme pharmaceutique britannique de Londres qui s'appelle Mehan Baker font des recherches sur des molécules actives contre le trypanosome. Le trypanosome qui est un parasite transmis par la mouche tsetse dans l'essentiel de l'Afrique tropicale et qui provoque une pathologie qu'on appelle couramment la maladie du sommeil ou trypanosomiase. Et donc, c'est dans le cadre de ces recherches de molécules actives sur le trypanosome qu'une série de nouveaux composés de synthèse sont testés à Londres, puis à l'école de médecine tropicale de Liverpool, qui est une sorte d'équivalent à l'époque de notre Institut Pasteur, donc une grande institution enfin spécialisée dans la médecine tropicale, une grande institution de recherche qui collabore étroitement avec la firme pharmaceutique de Mehan Baker. Et donc c'est comme ça qu'on annonce en 1939 au Royaume-Uni la découverte d'un médicament miracle dont on ne divulgue pas encore le nom, qui est connu comme le MB800, le Mehan Baker 800, donc un nouveau composé particulièrement actif contre le trypanosome et dont les premiers tests dans les colonies britanniques africaines, en particulier en Sierra Leone, sont très positifs et montrent une efficacité jusqu'alors inconnue contre cette nouvelle maladie. Donc ce médicament miracle qui sera commercialisé, je disais, en France sous le nom de l'omidine. Ce médicament miracle, il va être donc expérimenté dans les colonies britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il va être transmis en Afrique en Afrique française et en Afrique belge, au Congo belge, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est une page d'histoire des sciences assez intéressante où on voit comment un continent complètement coupé, en fait, en tout cas en ce qui concerne la France et la Belgique, de la métropole, devient un site d'innovation scientifique et de recherche scientifique. Et des villes comme Léopoldville, la capitale du Congo belge, sont des sites particulièrement actifs pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le plan scientifique et en particulier sur le plan de la recherche médicale. Et donc c'est dans ce contexte que la pentamidine commence à être utilisée pendant des campagnes de lutte contre la maladie du sommeil. Alors, juste un petit point de contexte pour comprendre l'engouement qu'il va très rapidement y avoir pour le médicament au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le contexte, c'est que la maladie du sommeil, depuis le début du XXe siècle, c'est la grande maladie coloniale, entre guillemets, c'est la maladie qui est la priorité des services de santé coloniaux, parce qu'on lui impute la responsabilité du dépeuplement de l'Afrique et en particulier de la zone forestière d'Afrique tropicale. Et donc, il y a, à partir de la Première Guerre mondiale, des efforts importants qui sont faits par toutes les puissances coloniales pour lutter contre la maladie du sommeil, et en particulier en inventant une nouvelle forme un peu d'intervention de santé publique qui est la médecine de masse, qui consiste à créer des équipes mobiles d'infirmiers principalement, qui vont aller visiter les villages, dépister au microscope, en prélevant du sang des villageois, qui est porteur du parasite, et traiter sur le champ par des injections de médicaments les malades. Donc cette médecine de masse, cette médecine mobile, c'est une invention de l'entre-deux-guerres qui est déjà bien rodée dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais alors le nouveau contexte de l'après-1945, c'est d'abord une recrudescence de cette épidémie suite aux troubles liés au conflit mondial en Afrique. Hein, la Seconde Guerre mondiale a été très lourde pour les populations africaines qui ont été en fait soumises au travail forcé de manière plus intense qu'auparavant, et notamment qui ont été soumises au travail forcé pour produire du caoutchouc pour les armées alliées qui en avaient besoin et qui ne pouvaient plus s'approvisionner dans les zones sous contrôle japonais, qui étaient les grandes régions productrices de caoutchouc, en particulier Java et les Indes néerlandaises. Donc bref, la Seconde Guerre mondiale, désordres sociaux, économiques, écologiques en Afrique, en particulier en Afrique centrale, et donc recrudescence de cette épidémie dramatique. Et puis, l'après-Seconde Guerre mondiale, dans les colonies françaises, britanniques, belges, c'est un moment d'ambition et d'investissement massif dans le domaine de la santé et de l'éducation. C'est ce qu'on appelle à l'époque le nouveau colonialisme, un colonialisme social, qui pour la première fois se donne vraiment les moyens de faire ce qu'on appelle à l'époque une politique de population, c'est-à-dire d'essayer de cultiver le nombre des Africains pour ensuite permettre le décollage économique de l'Afrique. Donc c'est un contexte important, c'est ce moment où l'Afrique entre un peu à l'heure du développement aux yeux des puissances coloniales. Et dans ce contexte, la pentamidine révolutionne en fait la manière dont on lutte contre la maladie du sommeil et elle va entrer du coup cet ensemble de techniques issues de la Seconde Guerre mondiale qui vont susciter un enthousiasme très important dans le monde tropical. Parmi ces techniques, on a le DDT, un insecticide issu de la recherche militaire, lui aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va révolutionner la lutte contre le paludisme. On a la pénicilline, premier antibiotique, lui aussi qui révolutionne la lutte contre un grand nombre de maladies infectieuses. On a des inventions beaucoup plus mécaniques comme la Jeep, les véhicules de 4x4, les bulldozers, les caterpillars. Donc il y a une sorte de révolution de matériel à ce moment-là, et la pentamidine en fait partie. Alors qu'est-ce que la pentamidine change à la lutte contre la maladie du sommeil? La pentamidine, pour la première fois, et c'est les médecins belges qui le démontrent, permet de prévenir la maladie du sommeil. C'est-à-dire, on estime qu'une injection de pentamidine va protéger les individus pendant 6 mois à 1 an contre l'infection par le parasite de la maladie du sommeil. Donc c'est une méthode qu'on appelle une méthode prophylactique, préventive, chimio-prophylactique, que les médecins coloniaux vont appeler la lomidinisation ou la pentamidinisation. Et on parlera même souvent de lomidinisation totale, puisque l'enjeu est d'injecter la totalité des populations de donner ces injections préventives à la totalité des populations. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux, puisqu'il va falloir travailler à très haute cadence. Hein, on dit classiquement une injection par minute, pour couvrir un maximum de personnes. Sur toute la période concernée, j'estime qu'il y a eu entre 12 et 13 millions d'injections de pentamidine en Afrique tropicale. Donc c'est un travail qui est à la fois intense, lourd, exigeant pour les populations, mais qui promet un contrôle de l'épidémie tout d'abord, et même assez rapidement son éradication. Alors c'est une piqûre qui est une piqûre intramusculaire dans la fesse, qui est une piqûre au passage qui est relativement douloureuse, on y reviendra. Mais en tout cas, vous voyez, le début des campagnes de lomidinisation entraîne une chute, alors les médecins disent une chute verticale des indices de prévalence de la maladie du sommeil. La technique, en 2-3 ans seulement, permet de rendre les nouveaux cas de maladie extrêmement rares. Donc c'est une victoire contre une maladie qui obsède littéralement les médecins coloniaux depuis une trentaine d'années à l'époque. On se met même à théoriser l'éradication de la maladie du sommeil. L'enjeu devient vraiment l'éradication, et c'est un moment où ce terme fait son apparition dans le monde de la santé publique coloniale, aussi bien belge, française que portugaise. Et les Français annoncent même, en ce qui les concerne, l'éradication imminente de la maladie du sommeil par la lomidinisation. Donc c'est l'histoire d'un médicament miracle et c'est l'histoire d'un succès spectaculaire entre 1945 et 1953. Alors voilà pour le médicament miracle. Maintenant, j'en viens immédiatement à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, on la connaît. C'est d'abord que la maladie du sommeil n'a pas été éradiquée d'Afrique, même si les épidémies à la fin des années 50 ne sont plus du tout des menaces importantes. Hein, ça devient une maladie sporadique. On sait qu'il y a aujourd'hui encore quelques cas, etc. Donc c'est une maladie qui n'a pas disparu. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui concerne ce médicament, la pentamidine. À la fin des années 50, il y a une série d'accidents dramatiques liés à ces campagnes de l'homidinisation qui vont conduire à l'abandon en fait de cette méthode. Et surtout, dans les années 60, de nouvelles expériences de laboratoire et de nouvelles connaissances sur la maladie du sommeil conduisent les spécialistes à complètement réévaluer le statut de la pentamidine. Et on montre en particulier que la pentamidine n'a pas de pouvoir préventif contre le trypanosome. Et ça, je crois qu'il y a un consensus qui est partagé jusqu'à aujourd'hui. La pentamidine est toujours aujourd'hui un bon traitement de la maladie du sommeil. Si vous êtes parasité, c'est un des meilleurs médicaments qu'on ait pour vous en tirer, même si c'est un médicament qui va être délicat à utiliser. Mais par contre, on sait qu'il reste plus de pentamidine dans l'organisme après quelques jours, au plus long après quelques semaines, et que la pentamidine, de ce fait, ne protège pas contre la maladie pendant 6 mois, certainement pas pendant 1 an, et certainement pas, comme l'espéraient pourtant les médecins coloniaux, pendant 2 ans. D'accord? Donc, alors que les médecins avaient toutes sortes de théories, bien sûr, pour justifier le fait que le médicament restait dans l'organisme pendant de très longues périodes. Donc ce médicament est complètement réévalué, et en particulier ce qu'on réévalue, ce sont les risques liés au médicament. On découvre dans les années 60, en tout cas on découvre, on reconnaît dans les années 60 que c'est un médicament qui est dangereux en raison de ses effets secondaires. Pour citer un médecin colonial français qui a lui-même beaucoup utilisé la lomidine dans les années 50, la pentamidine devient dans les années 70, un médicament inutile, dangereux et par conséquent inutilement dangereux. Et si vous ouvrez aujourd'hui un manuel de médecine tropicale, vous verrez que la pentamidine en traitement préventif est complètement déconsidérée. Plus personne oserait faire ça tout simplement aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on sait à partir des années 70, c'est ce qu'on sait toujours aujourd'hui. Et c'est un peu ça qui est au point de départ en fait de mon enquête sur ce médicament. Alors ce que j'ai essayé de faire, et on pourra en rediscuter après, j'en parle un peu dans l'introduction, c'est d'utiliser ce que l'on connaît aujourd'hui du médicament comme un peu dans une démarche heuristique, c'est-à-dire pour poser des questions à mes sources, et donc non pas pour essayer ensuite d'écrire l'histoire de comment les médecins se sont trompés, mais plutôt essayer de comprendre, en sachant que le médicament ne protégeait pas et était dangereux d'une certaine manière. Comment essayer de suivre au plus près la manière dont les médecins ont produit, face à des incohérences, face à des problèmes, face à des accidents, ont produit la confiance dans le médicament. Essayer de comprendre comment cette confiance dans le médicament n'allait pas de soi et que, en dépit des problèmes, elle a été produite et même renforcée au fur et à mesure que les problèmes se posaient, comme j'essaierai de le montrer. Donc c'est un peu un jeu, si vous voulez, pour les historiens des sciences, avec une histoire jugée, avec un jeu avec ce que l'on sait aujourd'hui. C'est quelque chose que les historiens pur sucre, si on peut dire, les vrais historiens n'aiment pas faire. Hein. Les vrais historiens préfèrent faire semblant de ne pas savoir ce que l'on sait aujourd'hui pour éviter les illusions rétrospectives, les anachronismes, etc. Donc moi, je m'amuse à jouer un peu avec ça et à jouer avec ce que l'on sait de ce médicament et avec le fait que l'on sache que le médicament ne marchait pas. Alors maintenant, voilà ce qu'on va, justement le faire dans une deuxième partie, suivre comment les médecins, les experts en santé publique de l'époque ont rencontré des problèmes et ont essayé de donner sens à ces problèmes pour continuer, enfin, et continuer les programmes. Alors, tout d'abord, le premier problème posé par la pentamidine, c'est que c'est un médicament qui était, d'une certaine manière, trop efficace. Les premiers essais cliniques de la pentamidine qui ont lieu pendant la Seconde Guerre au Congo belge sont des essais collectifs, c'est important et on y reviendra, qui prennent un village dans une région très touchée par la maladie du sommeil, qui sépare la population du village en deux, qui donne une injection préventive de pentamidine à la moitié et qui laisse l'autre moitié de la population sans injection. Et ce qu'ils trouvent 6 mois après, c'est que l'incidence de la maladie chez la population qui a été injectée s'est effondrée, mais ils trouvent qu'elle s'est aussi effondrée chez les témoins. Donc ils s'aperçoivent que les témoins ont été aussi protégés. Alors ils proposent toutes sortes d'explications à ça. Il relève notamment le fait que si les témoins ont été protégés effectivement de l'infection, il y a ce que les épidémiologistes de l'époque appellent un réservoir de virus qui a été diminué, donc la population qui n'est pas protégée est protégée par le fait qu'il y a moins de virus à côté d'eux. Mais ça, c'est une des explications, et c'est celle qui est rétrospectivement la plus plausible d'ailleurs. Mais il y a d'autres explications à cela. Et notamment, une explication qui va revenir pendant toutes les années 50, c'est l'idée que les mouches tsetse, qui transmettent le parasite des individus contaminés aux individus sains, ces mouches tsetse, en fait, en piquant des individus qui ont été lomidinisés, elles se lomidinisent elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ingèrent de ce médicament miracle et donc elles se protègent contre la maladie du sommeil, enfin contre le parasite aussi. Donc il y a ces explications, je le dis sans ironie, ces explications qui sont prises au sérieux à l'époque. Donc le médicament trop efficace qui protège aussi les gens qui ne le reçoivent pas, trop efficace aussi sur la durée de protection. Comment comprendre que, et parce que les services de santé coloniaux ont des moyens limités, ils ont du mal à... Le rythme officiel, c'était tous les 3 mois, puis après on est passé à tous les 6 mois, et puis comme les populations en plus sont assez réticentes à venir se faire injecter, on fait ça tous les ans, parfois tous les 2 ans. Et ça marche toujours aussi bien. C'est-à-dire que même en venant tous les ans, on arrive très bien à contrôler l'épidémie par ces injections préventives. Et là, les médecins, c'est compliqué d'expliquer, même à l'époque, c'est compliqué d'expliquer qu'un médicament puisse agir pendant 1 an. Il ne s'agit pas d'un vaccin, c'est une molécule chimique, relativement simple d'ailleurs, qui agit pendant 1 an. Alors là, les explications sont complexes. On explique que la pentamidine se fixe dans l'organisme, on essaye de le démontrer, etc. Mais on n'a pas vraiment d'explication précise. Et puis, on n'a d'ailleurs aucune explication du mécanisme biologique par lequel la pentamidine pourrait avoir ses effets à long terme. Donc, le médicament est trop efficace. Ensuite, l'autre problème, c'est que le médicament n'est pas assez efficace dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire que les médecins assistent parfois à des échecs de l'omidinisation. C'est-à-dire que des individus qui ont été injectés sont trouvés, à la prochaine visite médicale, contaminés. Donc le médicament, dans un certain cas, n'a pas protégé. Et là, il y a des enquêtes et des discussions tout à fait sérieuses dans la littérature scientifique de l'époque qui font appel plutôt à une sorte d'analyse sociologique qui relève que ces échecs de l'omidinisation sont plus fréquents dans certains contextes sociaux et qu'ils touchent plus souvent des populations, notamment de boys, de fonctionnaires, donc des populations qui ne sont pas des villageois, qui ne sont pas des paysans de l'Afrique rurale et éternelle, mais qui sont plutôt issus d'une nouvelle classe sociale qui inquiète beaucoup les pouvoirs coloniaux et les médecins en particulier, qu'on appelle les détribalisés dans la langue coloniale de l'époque, donc des Africains en train d'évoluer vers la modernité, mais qui sont dans un entre-deux qui inquiète les pouvoirs coloniaux. Parce qu'on dit à l'époque que c'est là que se recrutent les nationalistes, les exaltés, etc. Donc les échecs de l'injection touchent cette population en particulier. Pourquoi ? Parce que c'est une population la plus indisciplinée qui a réussi à s'échapper entre le moment où on leur a donné leur carte avec écrit « lomidinisé » et puis le moment où ils ont reçu où ils n'ont pas reçu justement l'injection. D'accord? Donc c'est des gens qui ont réussi ou alors à soudoyer le secrétaire qui remplit le registre et puis à s'échapper avant de recevoir l'injection. Donc on a une explication comme ça sociologique qui place la responsabilité de l'échec de la méthode sur l'indiscipline, enfin qui rend l'indiscipline de certains individus et en particulier de ces Africains boy, fonctionnaires, etc., responsable de l'échec de la méthode. Mais on s'aperçoit quand même que dans un certain nombre de cas, y compris dans des zones très rurales, la maladie résiste. Et là, une explication qui est donnée, c'est que, on a, et c'est assez classique en santé publique, hein, on a un foyer de maladie du sommeil qu'on cible, donc on répète les campagnes d'injection, etc., mais des nouveaux cas continuent à émerger dans ce foyer malgré une lomidisation totale. Donc l'explication, c'est qu'il y a une contamination par l'extérieur du foyer, y compris venant de zones connues pour être indemnes de maladies du sommeil. Et donc là, c'est ce que proposent les médecins belges et qui vont mener toute une expérience là-dessus. Ils vont proposer de lomidiniser des populations qui ne sont pas touchées par la maladie du sommeil, mais qui vivent dans des régions qui entourent les régions touchées par la maladie du sommeil. En d'autres termes, c'est parce que la méthode ne marche pas. Enfin, si la méthode ne marche pas, c'est qu'on ne l'a pas utilisée à une assez grande échelle. Et c'est le raisonnement que tiennent les médecins belges et qui vont donc étendre les campagnes de lomidinisation. Ensuite, je l'évoquais tout à l'heure, la piqûre de pentamidine est une injection qui est extrêmement douloureuse. Les firmes pharmaceutiques qui l'ont commercialisée jusqu'à aujourd'hui ont essayé par exemple de faire des combinaisons avec des anesthésiques, hein, ça fait partie de ces médicaments très douloureux en injection, et qui elle provoque aussi des effets secondaires très sérieux, et, alors comme tous les médicaments, mais un peu plus que les autres médicaments. Aujourd'hui, une injection de pentamidine, on ne vous fera pas ça en médecine de ville, il faudra être en contexte hospitalier pour pouvoir être réanimé si vous faites une syncope grave, pour surveiller votre fonction rénale, etc. Donc c'est un médicament costaud qui provoque des décès brutaux dans un certain nombre de cas. Là, ça, c'est juste des images qui évoquent la douleur de l'injection. Donc c'est un médicament qui provoque des décès brutaux dans un certain nombre de cas. Qu'est-ce que c'est ? Oui, je reviendrai là-dessus. Ça, c'est juste une chanson qui circule au Cameroun qui évoque la douleur de la piqûre et ses effets secondaires. Mais donc, les effets secondaires de la pentamidine sont suffisamment importants pour inquiéter la firme qui commercialise la pentamidine, et en particulier les décès brutaux après injection. Et donc la firme Rhône-Poulenc conduit une enquête au Cameroun où elle teste des nouvelles formes de préparation de la pentamidine combinée à d'autres molécules pour essayer de limiter ces syncopes et ces décès. Et la conclusion des enquêtes, qui est une conclusion qui est dans le rapport officiel de la commission d'enquête, c'est que là encore, les accidents ont pour cause l'indiscipline des individus qui reçoivent l'injection et en particulier le fait que les individus ne viennent pas à jeun aux campagnes. Et puis, on s'aperçoit que là encore, les accidents n'ont pas lieu partout de la même manière. Ils ont lieu en particulier autour des grandes villes, dans ces régions d'indiscipline, ces régions qui sont aussi des régions en état pré-insurrectionnel. Hein, on est en pleine décolonisation au Cameroun. Et les médecins attribuent à certaines ethnies l'occurrence de ces accidents. Et donc, vous voyez ce qui nous... il y a une langue un peu savante, hein, mais ils expliquent qu'il y a un facteur de pusillanimité et d'émotivité plus marqué au sein de ces populations. Donc, et on attribue ça à certaines ethnies, donc d'être plus émotives et plus pusillanimes, donc d'avoir peur de l'injection, et c'est ça qui les... fait entrer en syncope, voire décéder. Donc il y a cette littérature comme ça qui rend responsable en tout cas les individus et leur initiative individuelle, leur indiscipline individuelle, des problèmes posés par le médicament. Alors c'est cette séquence de contradictions rencontrées par les médecins et de contradictions résolues généralement par une réaffirmation de la valeur du médicament, de l'importance d'étendre ce programme au maximum et de la nécessité même d'intensifier parfois les injections. Cette séquence, elle conduit à un changement dans la façon dont le médicament est décrit, et la pentamidine devient un médicament collectif. C'est-à-dire que initialement, c'est une méthode qui était censée protéger les individus contre, l'injection d'un individu protégeait l'individu lui-même. Et puis, au fur et à mesure que la pentamidine connaît des échecs, on insiste pour dire qu'il est important que l'individu se fasse injecter pour protéger la population. Donc on passe à une vision de plus en plus populationnelle du médicament, qui est très classique dans l'histoire de la médecine coloniale et de la santé publique en général, hein. C'est une approche populationnelle, mais là qui n'allait pas de soi avec ce médicament qui était censé protéger les individus. Alors on le voit par exemple dans la présentation officielle du médicament par Ron Poulin, qui est, à ma connaissance, c'est un des seuls médicaments de l'histoire, dont l'indication est collective, vous voyez, pour l'indication préventive, la lomidisation préventive, sur l'ensemble de la population d'une région. Donc ça, c'est la notice du médicament que vous avez dans la boîte. Donc sur l'ensemble de la population d'une région, pratiquez tous les 4 à 6 mois une seule injection de lomidine. Donc c'est un médicament qui devient pensé à l'échelle collective, peut-être parce qu'il est impossible de le penser à l'échelle individuelle. Et on retrouve ça aussi dans les brochures d'éducation sanitaire qui cherchent à convaincre les populations de venir. En théorie, on pourrait ne dire aux gens « venez vous faire injecter, vous serez protégés ». Et en fait, l'argumentaire se déplace de plus en plus vers l'idée de la participation à une œuvre collective. Donc c'est un médicament qui devient un médicament pour la masse, la pentamidine. Et c'est un médicament qui, alors à l'époque, on dit un médicament aussi pour la race, et la race, c'est le nom de la... C'est comme ça qu'on nomme la population, l'idée d'une population dans le contexte colonial. Mais c'est aussi un médicament qui va se racialiser, au sens où il va distinguer le cas des Européens et des Africains. En effet, l'Afrique des années 50 a une population européenne coloniale relativement importante. Il y a un tourisme qui se développe, il y a des voyages, il y a des lignes aériennes qui s'ouvrent, et la lomidine, par ailleurs, est dans la propagande coloniale, et donc les colons sont au courant de ce médicament miracle qui protège contre la maladie du sommeil, et assez naturellement, comme en plus ils ont peur, encore on parle de la maladie de sommeil depuis qu'ils sont entrés à l'école dans les années 20, etc., ils demandent à leur médecin, est-ce que je pourrais avoir une piqûre de ce médicament magique qui me protégera si je vais chasser, etc. Et là, les médecins sont bien embarrassés, parce que officiellement, le médicament biologiquement marche pour tout le monde. Mais par ailleurs, les médecins savent très bien que c'est un médicament dangereux, que la protection n'est pas garantie à 100%, et qu'il vaut vraisemblablement mieux être diagnostiqué positif et traité par la suite que de recevoir cette piqûre de manière préventive. Et donc dans les correspondances privées des médecins et même dans certaines instructions officielles, on va expliquer que la lomidine n'est pas indiquée en préventif pour les Européens. Et donc là, vous voyez ce qu'on recommande en AOF. On demande un consentement écrit dans le cas des Européens, s'assurer qu'il est volontaire, déclaration écrite. En 53, c'est assez étonnant. Examen médical, cardiaque, rénal, avec albuminurie, etc., et on écarte du traitement tous les sujets un peu fragiles. Dans le même temps, la piqûre était obligatoire avec des peines d'amende et de prison pour les collectifs africains. Alors cette racialisation du raisonnement, elle se superpose à ce que j'étais en train d'expliquer plus haut. Dans le cas des Européens, on a un raisonnement individuel. On pèse les bénéfices et les risques du médicament, même si ce n'est pas dit en ces termes à l'époque, à l'échelle individuelle, et on va dire que la lomidination est indiquée, en fait, si l'Européen en question est un forestier ou un chasseur qui est vraiment exposé à la maladie et qui est éloigné des hôpitaux. Donc, en fait, ce raisonnement bénéfice-risque à l'échelle individuelle pour les Européens, alors qu'on ne parvient pas du tout à le faire dans le cas des Africains, qui sont uniquement pensés comme des individus collectifs. Et c'est vraiment une ligne de partage. La racialisation de la pentamidine, en fait, elle se superpose à une distinction entre des individus qui sont européens. Les Européens ont le droit d'être des individus aux yeux des médecins, alors que les Africains sont des collectifs. Voilà, donc j'en viens maintenant un peu au dénouement de cette histoire. C'est donc dans ce contexte, donc à partir du milieu des années 50, la maladie du sommeil n'est quasiment plus une menace. Les problèmes se sont multipliés dans le cadre des campagnes, notamment les populations veulent de moins en moins venir se faire lobotomiser parce qu'elles savent que c'est douloureux, elles savent que la maladie n'est plus vraiment présente, donc il commence à y avoir des tensions de plus en plus vives dans ces campagnes. Et c'est dans ce contexte que va arriver un événement par lequel j'ai commencé le texte que je vous ai fait lire, qui est lors d'une campagne tout à fait classique de lobotomisation, la survenue d'une épidémie de gangrène. Donc la gangrène, c'est une infection des muscles très très grave, hein, qui arrivait surtout pendant la guerre avec des blessures de guerre, etc., qui mène à des chocs septiques et dans un grand nombre de cas à des décès. Et donc dans un petit village des confins du Cameroun, une épidémie de gangrène décime un village entier. Avec 32 décès, 300 cas sur un village qui doit faire 500 ou 600 personnes. Donc une hécatombe qui est donc provoquée par des piqûres de l'omidine. Donc je passe assez vite là-dessus. Il y a une grande partie de mon livre qui est consacrée à l'étude de cet accident et en particulier à l'étude de toute la réaction de l'État colonial à cet accident avec les commissions d'enquête, les missions de secours, etc., qui se sont mises en branle à l'occasion de cet accident. Alors cet accident, pour simplement vous expliquer la cause de l'accident, elle est très vite connue, elle est très vite identifiée par les médecins. Elle est d'autant mieux connue que ce n'est pas du tout le premier accident et malheureusement pas le dernier accident de ce genre. Dans des campagnes de lomidinisation. La cause, c'est que la lomidine, elle était achetée à la firme Rhône-Poulenc qu'en poudre, parce que c'était moins cher que de l'acheter en solution toute faite. Et donc, sur le terrain, il fallait mettre la lomidine en solution pour pouvoir l'injecter. Et pour ça, il fallait utiliser l'eau dont on disposait sur place, en la filtrant, en prenant le plus de précautions possible, en la faisant bouillir longuement, etc. Mais ça n'empêchait pas la contamination. Alors, le fréquent n'est pas le bon terme, mais qui a eu lieu malheureusement un certain nombre de fois, la contamination de l'eau par des spores de bactéries, enfin des bactéries sous forme de spores qui ensuite pouvaient provoquer des gangrènes. Et donc, c'est en injectant des solutions contaminées, donc ce n'est pas lié au médicament lui-même, c'est lié au mode d'administration, qu'on a eu comme ça une épidémie de gangrène gazeuse. Donc, la réaction de l'accident d'Yokadouma en 1954 est intéressant parce que c'est un moment de la décolonisation du Cameroun, donc qui est la colonie française d'Afrique qui a connu une guerre de décolonisation. C'est un moment déjà très tendu de la guerre de décolonisation du Cameroun. Donc, cet accident va être source d'une grande frousse pour l'État colonial français qui a peur de perdre le contrôle de la situation. Il y a des émeutes, les députés camerounais interpellent à l'Assemblée législative camerounaise, interpellent le gouvernement colonial français, donc il y a des débats et il y a ce qu'on peut appeler les débuts d'un scandale au Cameroun. Et ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est de, mais je passe vite là-dessus, mais c'est de réfléchir au rapport entre le travail documentaire et bureaucratique de l'État colonial qui a généré un dossier épais comme ça sur cet accident et qui est en fait le moyen par lequel je suis entré dans cette histoire de la pentamidine, hein, ça a commencé pour moi par ce dossier, et en fait comprendre que ce dossier, s'il était là, s'il était dans les archives, c'était principalement en raison, et là c'est en raison de la volonté de l'État de contenir le scandale. Pour contenir le scandale, qu'est-ce qu'il faut? Il faut produire des rapports, il faut se documenter, il faut produire des argumentaires qui vont permettre de se protéger d'éventuelles attaques. Et à l'époque, on commence à avoir peur de l'ONU. Les indépendantistes camerounais sont présents à New York. Donc il y a tout un climat comme ça de peur et d'anticipation du scandale qui conduit l'État à archiver tout ce qui concerne l'accident et qui conduit finalement, des années plus tard, l'historien à tomber dessus. Et donc il y a un rapport comme ça entre l'archive et le scandale et qui m'intéressait au sens où là, les archives ne sont pas uniquement une source, mais on comprend que les archives sont aussi, ou en tout cas le travail d'archivage participe aussi de la résolution de la crise à l'époque. Donc ça, c'est la première chose que j'essaie de montrer dans le livre. Et puis, hélas, il participe aussi à la répétition des accidents. Les accidents comme ceux d'Yokadouma, je disais, il y en a toute une série. Il y en a un qui précède l'accident d'Yokadouma un an avant au Gabon, avec aussi des dizaines de décès. Il y en aura un dernier au Tchad en 1965, avec là encore 14 morts. Et en fait, ce qui est extrêmement frappant et édifiant quand on va dans les archives coloniales françaises, c'est que les dossiers de ces accidents se juxtaposent et parviennent à ne jamais faire référence à l'accident précédent. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'amnésie dans l'archivage qui est extrêmement frappante. Alors, c'est une amnésie, c'est parfois un effacement volontaire dans le cas de Yokadouma. Et il y a, à l'issue des accidents, la production d'une version officielle de l'accident. Et la version officielle de l'accident, enfin, il y a deux versions officielles. Il y a une version officielle qui est celle que j'ai donnée, on comprend très bien ce qui s'est passé. Et puis, il y a une autre version officielle, qui est la version publique, où on va dire que la cause de ces accidents, c'est le fait que les Africains se mettent de la boue, des emplâtres, pour faire diminuer la douleur de l'injection au site d'injection. Ils mettent des gris-gris, etc. Donc, on abuse comme ça sur le côté les coutumes, les superstitions africaines, et qui, là encore, les victimes sont responsables, malheureusement, de leurs accidents. Et ça, c'est le récit qui va circuler dans les publications scientifiques sur la pentamidine, qui est en contradiction complète avec les rapports des enquêteurs, et qui va circuler jusque dans les publications de l'OMS sur la lutte contre la maladie du sommeil. Donc là encore, en fait, vous voyez le même mécanisme se rejouer. Plus on échoue, plus on impute la responsabilité à l'indiscipline ou des infirmiers, parce qu'on dit aussi que c'est les infirmiers qui ne sont pas sérieux, qui sont indisciplinés, ou des victimes elles-mêmes. Et on ménage toujours la confiance qu'on a dans ce médicament. Voilà, j'ai bientôt fini. Là, c'est un extrait d'un des derniers rapports qui a été fait sur les campagnes de pentamidinisation. C'est une citation d'un médecin belge qui dit, là encore noir sur blanc et de façon extrêmement explicite, qu'il est bien conscient que ces campagnes sont dangereuses, qu'il va y avoir des décès. Là encore, il faut rappeler que c'est des personnes saines, qui n'ont pas la maladie, à qui on injecte ce médicament préventif, il va y avoir des décès, mais c'est précisément pour cette raison qu'il faut accélérer la cadence et finir le travail et éradiquer la maladie. Et donc, c'est cette dynamique, cette escalade un petit peu dans la volonté d'éradiquer et l'intensification des programmes j'ai mis longtemps à essayer de savoir comment nommer cela. Est-ce que les médecins étaient fous? Est-ce qu'ils étaient complètement aveuglés par leur pensée coloniale, etc. C'est pas ce que je propose dans le livre. Je ne pense pas non plus qu'ils étaient cyniques. Je n'ai aucun élément de preuve qui montrerait qu'il y avait des gros profits engrangés avec ce médicament. J'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'était si important. Même pour la firme pharmaceutique de l'homidiniser l'Afrique. Et donc l'hypothèse que je propose et que je développe un peu dans le texte que je vous ai donné, c'est de chercher plutôt du côté, non pas de l'erreur, mais plutôt d'une sorte de confiance dans la raison, et donc pas du côté de l'irrationalité, mais plutôt de l'excès de confiance et une confiance qui est produite par une série de décisions rationnelles, d'expérimentations rationnelles, etc. Et donc, c'est à partir de là que j'ai proposé de qualifier ça de bêtise, en le faisant prudemment, mais parce qu'il y avait cet écho avec la fameuse définition de Flaubert de la bêtise comme la volonté de conclure. Et c'est cette volonté d'en finir avec la maladie du sommeil, d'éradiquer à tout prix, y compris au prix de décès de gens qui n'étaient même plus menacés par la maladie, qu'on peut être tenté de qualifier de bêtise. Voilà, bon, j'en ai fini. Il y a un dernier, il y a plusieurs autres épisodes, mais j'ai déjà parlé 50 minutes. Il y a d'autres épisodes à la vie de ce médicament. L'épisode juste par lequel on peut terminer, C'est d'abord que dans les années 60, après les indépendances, ces campagnes sont complètement abandonnées, notamment parce que politiquement, il n'est plus possible de les mener. Les populations sont trop réticentes et on ne cherche plus à le faire. Et puis, des expériences de laboratoire montrent que la pentamidine ne prévient pas contre la maladie du sommeil. Reste à savoir, et bon, ça, j'y répondrai dans les questions si ça vous intéresse, reste à savoir comment la pentamidine a marché, puisqu'elle a quand même été extrêmement efficace pour réduire et contrôler les épidémies de maladie du sommeil. Voilà.